le général Gourgaud fait monter des prostituées, on prend des cuites. Voilà, alors autour du sanctuaire des appartements de l'empereur, il se passe des choses qu'on pourrait appeler la vie.
Le pire intrigant de tous était sans doute le général Gourgaud, qui est d'une jalousie maladive. Il déteste Albine, la femme du général Montholon. Il suffit de lire des extraits de son journal pour se rendre compte du niveau de ses mesquineries.
Madame Bertrand me dit que Sa Majesté a dit à son mari que je ne devais pas raconter que Madame de Montholon était bien avec lui, que c'était faux, qu'elle était trop laide, que ça pourrait se mettre dans les gazettes et faire du tort. J'assure à Madame Bertrand que je ne parle pas à qui que ce soit de cette Montholon, que ce serait lui faire plaisir, qu'elle est bien avec Sa Majesté, qu'elle couche avec, etc. Pauvre Montholon, quel rôle jouez-vous ? L'empereur nous fait demander. Il joue au billard avec la Montholon. Cette dernière fait tout ce qu'elle peut pour faire la passionner avec Sa Majesté. Yeux doux, pieds en avant, robe passée à la taille. Enfin, elle cherche à faire la belle. Et ce n'est pas facile.
Le personnage le plus détestable dans l'histoire, c'est le général Gourgaud qui, lui, est d'une jalousie extrême et a des sentiments à fleur de peau et amoureux et perdu de Napoléon. Il ne supporte pas que quelqu'un s'approche de Napoléon trop près. Il grogne.
Pierre Brandin.
Il est comme ça. Véritablement, il devient méchant. Il menace Lascaz et puis il provoque en duel Montholon. Parce que, alors que sa femme soit devenue la maîtresse de son maître, ça, il ne supporte pas. Et pour lui, c'est vraiment impossible. Donc il va le provoquer plusieurs fois en duel, ce qui va entraîner son départ aussi, parce que Napoléon va finir par lui dire « Écoutez, c'est plus possible, il faut partir. » Je veux dire, donc Gourgaud est devenu un personnage qui a en partie perdu la raison à Longwood, il n'est pas le seul, hein, à Sainte-Hélène, mais bon, voilà. Et va devenir comme ça le personnage un peu détestable de l'histoire. Et Longwood va se transformer en huis clos, un petit peu comme même beaucoup d'ailleurs, comme la pièce de Jean-Paul Sartre, qui conclut sa fameuse pièce huis clos par l'enfer, c'est les autres.
Les conflits et les disputes vont prendre une telle ampleur au sein de la petite communauté française que Napoléon doit empêcher Gourgaud et Montholon de se battre en duel. Comme l'explique ce dernier dans ses mémoires.
L'empereur n'est pas sorti de la journée. Il est souffrant et morose. Les moindres circonstances sont trop souvent dans la captivité le prétexte d'une explosion de mauvaise humeur. Je n'accuse aucun d'entre nous. Je dis les faits. Un duel dut avoir lieu. L'empereur le sut. Il nous désarma en nous disant avec l'émotion d'un père
« Vous voulez vous battre sous mes yeux ? Ne suis-je plus l'objet de tous vos soins ? Vous avez quitté vos familles, vous avez tout sacrifié par amour pour moi et pour partager mon malheur, et vous allez volontairement l'aggraver, me le rendre insupportable. Soyez frères, je vous l'ordonne. Je vous le demande comme votre père. »
Il y a peut-être pire que les disputes et les conflits à Sainte-Hélène. L'ennui. Les jours passent lentement et se ressemblent. Ce passage des souvenirs du général Montholon illustre parfaitement cette monotonie déprimante.
Trois navires en provenance d'Europe sont signalés. Nous espérons des lettres, des journaux. L'empereur monte à cheval et se dirige sur le point le plus élevé du plateau pour apercevoir ses vaisseaux. Chaque bateau qu'on signale a sur nous l'effet de l'électricité. Il faut avoir connu les souffrances de la captivité pour comprendre les rêveries de l'imagination du prisonnier. Il faut avoir été témoin de l'influence de cette situation sur une pensée aussi forte que celle de Napoléon pour concevoir les rêveries. Les souffrances d'un prisonnier politique.
Alors, pour tromper l'ennui, pour le vaincre, on écrit. Qu'il s'agisse de Napoléon, de ses compagnons d'exil, des Anglais, des serviteurs, tout le monde couche ses sentiments, ses souvenirs sur le papier à Sainte-Hélène.
Ce qui est très frappant à Sainte-Hélène, c'est que tout le monde écrit. Tout le monde a compris que cet exil de Napoléon est quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire et que en avoir été le témoin est important. Alors ils écrivent bien sûr pour eux-mêmes, ils écrivent peut-être sans doute pour publier puis ensuite gagner de l'argent, mais ils écrivent aussi pour laisser trace de ce que Napoléon leur a dit, de ce que Napoléon a été pendant cet exil. Ce qui fait qu'on a sur l'exil de Sainte-Hélène une documentation quasiment infinie, à la fois les écrits des Français, mais aussi le moindre Anglais qui va venir se promener aux alentours de Longwood, et à plus forte raison ceux qui vont être reçus par l'empereur, vous en écrivent des pages et des pages. Jamais Napoléon n'a été autant sous le feu des projecteurs qu'au moment où il était à Sainte-Hélène, et d'ailleurs y compris dans des aspects extrêmement intimes, presque dérangeants à certains moments. Je pense notamment aux mémoires du général Gourgaud, où on assiste à des scènes extraordinairement humaines de la part de Napoléon.
Je me trouvais en tête-à-tête avec celui qui avait gouverné le monde. Il m'entretenait familièrement de lui, de ses actions privées, comme si j'avais été là des années. Nous marchions des heures entières, surtout le soir, quand la lune était belle. Jamais l'empereur n'était plus causant, ni se trouvait de distraction plus complète. C'est dans la longueur de sa conversation qu'il racontait son enfance, les premières années de sa jeunesse, les détails de sa vie privée.
On est sûr que Lascaz a immédiatement compris ce qu'il pourrait tirer d'accompagner Napoléon en exil. D'ailleurs, ça n'est pas péjoratif que de le dire, mais on est dans une époque où c'est l'écrit qui fait foi. Et donc, Lascaz a tout de suite compris la chance qu'il avait de pouvoir passer du temps avec Napoléon, de pouvoir le questionner, de pouvoir même parfois débattre avec lui. Et donc, je crois qu'il faut qu'on remercie le ciel que Lascaz ait eu cette idée, parce qu'on a, notamment d'ailleurs sur le manuscrit, original, un témoignage de première main, un témoignage assez crédible, même si Lascaz est confit d'admiration devant Napoléon.
L'amiral Cockburn, qui s'est occupé de la surveillance de Napoléon dans un premier temps, est bientôt remplacé par un personnage qui va jouer un rôle important dans la captivité de Sainte-Hélène. C'est le gouverneur Hudson Lowe. Il nous raconte lui-même dans son journal sa première entrevue avec Napoléon.
J'eus ma première entrevue avec lui à 4 heures de l'après-midi. Le général Bertrand nous reçut dans la salle à manger qui sert d'antichambre et aussitôt il m'introduisit dans une pièce intérieure où je trouvais Bonaparte debout, son chapeau à la main. Comme il ne m'adressa pas la parole lorsque j'entrai et qu'il paraissait attendre que je lui parlasse, je rompis le silence en disant « Je suis venu, monsieur, vous présenter mes devoirs. »
« Vous parlez français, monsieur, à ce que je vois. Mais vous parlez aussi italien. » Vous avez commandé un régiment corse ?
Je lui répondis que le langage était égal. Et sur le champ, il commença dans cette langue une conversation qui dura une demi-heure. Il me demanda combien d'années j'avais au service. 28, lui répondis-je.
Je suis donc un peu plus vieux soldat que vous.
Dont l'histoire fera mention d'une manière bien différente, répondis-je. Il sourit, mais ne dit rien.
Alors Napoléon, quand il arrive, est content d'apprendre sa nomination parce qu'il sait que c'est un soldat qui a aussi combattu sur les mêmes champs de bataille que lui. Donc il se dit, bon, peut-être je peux établir un lien direct avec lui, ce sera plus facile que, voilà, je pourrais tenter un certain nombre de choses. Mais or que, en fait, Hudson Lowe est totalement obtus et résiste complètement à ces tentatives de séduction et Napoléon s'en aperçoit très vite. Il lui parle en italien, donc Lowe connaissait aussi l'italien. Enfin bon, il essaie d'avoir un rapport direct avec lui. Il faut savoir que Napoléon parlait en italien qu'avec les gens de confiance, donc on voit bien qu'il essaie d'établir un pont, mais Lowe là, reste roide, froid. Il a un comportement bizarre, c'est quelqu'un qui se dandine quand il parle. Il reste évasif, il est poli, il est obséquieux, mais en même temps il est fier. Et en fait, d'entretien, ça se dégrade, et les deux hommes finissent par se fâcher.
À la lecture des souvenirs de Montholon, on constate à quel point les relations se sont vite détériorées irrémédiablement entre Hudson Lowe et Napoléon.
L'arrivée du navire La Damante fut pour Sir Hudson Lowe l'occasion de venir à Longwood et de demander à être reçu par l'empereur pour lui communiquer des dépêches de son gouvernement. La conversation fut longue et animée. Elle se termina par ces paroles de l'empereur.
En résumé, monsieur, je ne veux rien de vous. Je ne vous demande qu'une chose, laissez-moi tranquille. Je me plaignais de l'amiral, mais je lui ai toujours rendu la justice de reconnaître qu'il avait le cœur du soldat, et j'ai toujours eu pleine confiance en son honneur. Depuis un mois que vous êtes ici, vous m'avez ôté toute confiance en vous. Je m'attends à tout de la part de vos ministres. Me voilà. Exécutez vos ordres. Sont-ils d'avis de me faire mourir par le fer ou le poison ? J'ignore comment vous vous y prendrez par le poison, mais quant à me tuer par le fer, vous m'avez prouvé que vous en aviez le moyen. Lorsque vous êtes venu menacer mes officiers de faire enfoncer à coups de baïonnette la porte de ma chambre qu'ils se refusaient à vous ouvrir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous vous couvrez d'opprobre à mon égard et que vos enfants rougiront du nom que vous leur laisserez. Ainsi le voudra la postérité.
Les relations entre Napoléon et Law vont être mauvaises dès le début. D'ailleurs, les deux hommes ne vont se rencontrer que 5 ou 6 fois, ce qui montre bien que Napoléon a une forme de mépris pour cet adversaire. Et surtout, il a bien compris que Law voulait se hisser à son niveau, ce que lui ne pouvait évidemment pas tolérer.
Mais il est muni d'ordres assez sévères, en fait. Hein.
Pierre Branda.
Il a pour consigne, par exemple, de réduire la suite de Napoléon. On trouve que Napoléon a trop de Français autour de lui, donc il faut en faire partir le maximum. Et si Napoléon peut finir tout seul, c'est tant mieux. Parce que son supérieur, Lord Bathurst, hein, qui est le ministre de la guerre et des colonies, déteste Napoléon. Law a des consignes assez sévères, quand même, qu'il doit appliquer. Mais alors, comme il est maladroit, il les applique mal. Alors, des fois, il essaie de compenser, mais... Par exemple, après tout ça, il invite Napoléon à sa table. Mais voilà, lors d'une visite d'un personnage important à Sainte-Hélène, il invite Napoléon, mais il invite le général Bonaparte. Donc en fait, Napoléon est furieux. Et Napoléon croit que c'est une vexation faite à dessein, que c'est voilà quelque chose que Hudson Law cherche à le vexer, alors que Hudson Law ne comprend même pas qu'il le vexe. Donc c'est un dialogue de sourds entre eux, hein, en fait, qui va conduire à alourdir l'atmosphère. Et là, à partir de ce moment-là, à partir d'avril 1816, hein, Hudson Law arrive en avril 1817 seulement, eh bien, c'était une guerre ouverte entre Napoléon, entre Longwood, la résidence de Napoléon, et Plantation House, la résidence de Hudson Law, car effectivement, tous les coups, là, vont être rendus et on ne cédera plus un pouce de terrain. Le climat va devenir détestable, véritablement, et on passe à un affrontement de tous les instants. Hein.
Napoléon et Hudson Law ne s'entendront jamais. Le gouverneur de Sainte-Hélène se plaindra souvent aux compagnons de Napoléon du comportement de ce dernier, comme on peut le lire dans les souvenirs du maréchal Bertrand. Il écrit
« Le gouverneur est arrivé à Hudsgate comme le grand maréchal en sortait. Il est descendu de cheval et lui a dit « J'ai eu une grande conversation avec le général. C'est un homme avec qui il est impossible de traiter aucune affaire. » C'est la manière la plus extraordinaire de parler. Il a commandé. Il veut que les choses se fassent toujours comme il veut. Et précisément comme il l'entend. Il a fait une Espagne imaginaire, une Angleterre imaginaire. Il veut faire une Sainte-Hélène imaginaire. J'ai examiné les comptes. Il est impossible que les dépenses continuent sur le même pied. Le gouvernement ayant compté sur une diminution du personnel a diminué les fonds. Je vous écrirai à ce sujet. Quoique j'eusse préféré traiter cela avec Napoléon, mais je crains qu'on ne s'entende pas. Je crains même une scène. Vous avez fait dire que vous manquiez de domestiques à Longwood ? Si vous en prenez, ils devront être payés sur les fonds du général. Je crois devoir vous prévenir.
Pourtant, malgré cette ambiance détestable, Napoléon garde espoir. Son étoile lui sourira encore, il en est convaincu, et il pourra quitter Sainte-Hélène un jour.
Napoléon pense qu'il y a une possibilité d'avenir pour lui. Alors, quel est cet avenir ? Est-ce que c'est un avenir politique ? Est-ce que c'est un avenir de changement de lieu de captivité ? Est-ce que c'est une libération totale qui lui permettrait ensuite de vivre soit aux États-Unis, soit en Amérique du Sud, soit en Angleterre ? Bon, on ne sait pas exactement, parce que lui-même n'a pas vraiment détaillé ses projets. D'ailleurs, en avait-il ? C'est même une question qu'on peut se poser. Bon, il a cru longtemps qu'on allait adoucir sa captivité une fois passée l'émotion du retour de l'île d'Elbe, une fois la paix revenue en Europe. On se serait dit, au fond, voilà un homme politique retraité, donc on va le laisser finir son âge tranquillement. Il faut quand même noter que Napoléon a entre 46 et 51 ans pendant l'exil de Sainte-Hélène. C'est donc encore un homme jeune. C'est un homme qui a de l'énergie, qui est réputé avoir beaucoup d'ambition et qui en a encore probablement beaucoup. Donc on le surveille d'autant plus
qu'aux yeux de beaucoup, il représente encore un danger pour la paix en Europe, voire même pour la paix en Amérique, et en Amérique du Sud notamment, parce que il y a eu des projets de création d'une espèce d'empire à la tête duquel on mettrait, si on ne pouvait pas Napoléon, on mettrait Joseph Bonaparte. Bon, tous ces projets n'ont même pas connu de début d'exécution, mais enfin, ce sont des projets qui existent et qui inquiètent tous les diplomates, parce que les diplomates aiment bien se faire peur, et donc il faut bien qu'ils aient quelque chose à dire à leur gouvernement. Et on voit notamment l'ambassadeur de France aux États-Unis, qui s'appelle Hyde de Neuville, qui est un ancien des conspirations anti-napoléoniennes, qui lui, au moindre bruit, au moindre napoléonien qui passe dans la rue, alerte immédiatement le monde entier sur les dangers que représente Napoléon.
Le coup de grâce vient du congrès d'Aix-la-Chapelle qui se tient en 1818.
Fin 1818, il y a un nouveau congrès international qui se réunit à Aix-la-Chapelle qui doit décider de l'évacuation des troupes qui continuent à occuper la France depuis 1815. Donc c'est un congrès assez important. Effectivement, la France va retrouver une certaine liberté d'action. Et on y discute également du sort de l'empereur. Il est hors de question de libérer Napoléon, et c'est le russe Pozzo di Borgo, qui est un Corse passé au service de la Russie, qui a une vendetta personnelle contre Napoléon. Pozzo di Borgo va lire un très long rapport où il va parler de Napoléon comme l'homme dont la funeste célébrité n'a pas encore cessé d'agiter le monde, et le comparer à la puissance destructrice de la Révolution française concentrée en un seul homme. Donc il est hors de question de le laisser quitter Sainte-Hélène. Il faut qu'il y reste, il faut qu'il y soit confiné jusqu'à la fin de ses jours, et c'est une condition sine qua non pour que la paix soit maintenue en Europe.
La déception de Napoléon à l'arrivée des nouvelles du congrès d'Aix-la-Chapelle est terrible. On peut presque dire qu'il va entrer en dépression à ce moment-là. Il avait un peu d'espoir, et puis l'espoir le faisait vivre, il faut bien le dire. Et on peut se demander si le désespoir ne le fait pas un peu mourir, parce que c'est à partir de ce moment-là que sa santé va se dégrader, qu'il ne va plus sortir, qu'il va avoir l'air un petit peu plus mélancolique. C'est véritablement un choc, et c'est probablement le tournant de la captivité, c'est-à-dire on passe d'un Napoléon qui reste, on va dire, globalement en forme, très actif, et puis qui continue à avoir des tas de projets, à un Napoléon qui se laisse aller et qui se laisse peut-être doucement glisser vers la mort.
De nombreuses fois, le comte de Lascaz dépeint le désespoir de Napoléon dans son mémorial de Sainte-Hélène.
L'empereur marchait dans le jardin. Nous étions autour de lui. La conversation est tombée de se retrouver un jour en Europe, de revoir la France.
Mes chers amis, vous autres, vous la reverrez.
Nous a-t-il dit avec un véritable sentiment, avec une expression impossible à rendre. Non, pas sans vous. Nous sommes-nous tous écriés. Cela a conduit à analyser de nouveau les chances probables de sortir de Sainte-Hélène. Et l'empereur ne voyait pas trop comment cela pourrait arriver.
L'impression est faite. Elle est trop profonde. Ils me craindront toujours. Et puis, au fait, qu'aurait-on à craindre ? Que je fasse la guerre ? Je suis trop vieux. Que je courusse encore après la gloire ? Je m'en suis gorgé. Que je recommençasse des conquêtes ? Je n'en fis pas manie, elles étaient le résultat d'un grand plan. Je dirais même plus de la nécessité. Elles furent raisonnables dans leur temps. Aujourd'hui, elles seraient impossibles. Elles étaient exécutables alors. Il serait insensé d'en avoir l'intention à présent.
Pour ajouter à la dépression de Napoléon, les départs de ses compagnons d'exil vont commencer. En effet, sa suite peut partir si elle le souhaite. Elle n'est pas prisonnière comme lui. Les mémoires de Bertrand montrent comment les Français étaient tiraillés entre le désir de rester pour servir leur empereur et celui de quitter cette île maudite.
On connaît la position du grand maréchal. Il a annoncé qu'il voulait s'en aller. Il regrette de quitter Napoléon. Et restera tant qu'il pourra. Il est entre le désir de ne pas abandonner Napoléon et le désir qu'a sa femme de revoir l'Europe. Il lutte. Lascaz et Montholon ont fait de grandes phrases de devoir. Ils veulent rester. Cependant, voulant partir, ils cherchent un moyen de le faire honorablement. Dans leur lettre particulière, ils ne parlent pas de la manière dont l'empereur est traité, mais d'eux-mêmes. Ils écrivent des injures pour se faire renvoyer. Gourgaud est le plus sage.
Je suis tranquille. Ils ne veulent pas s'en aller.
Observe l'empereur.
L'empereur se trompe. beaucoup vont le quitter, à commencer par le comte de Lascaz, l'auteur du futur mémorial de Sainte-Hélène. Les circonstances de son départ sont confuses.
Lascaz est-il parti de son plein gré? A-t-il organisé sa propre expulsion avec ou sans l'autorisation de Napoléon? On le saura probablement jamais, mais enfin, voilà un homme important qui a quitté assez tôt d'ailleurs, hein, fin 1816, la suite impériale.
Napoléon est profondément attristé par le départ de celui avec qui il échangeait ses souvenirs.
Mon cher comte Lascaz, arraché il y a 15 jours d'auprès de moi, vous êtes enfermé depuis cette époque au secret, sans que j'aie pu recevoir ni vous donner aucune nouvelle. Votre conduite à Sainte-Hélène a été comme votre vie, honorable et sans reproche, j'aime à vous le dire. On attendait un prétexte de saisir vos papiers. Comme tout porte à penser qu'on ne vous permettra pas de venir me voir avant votre départ, recevez mes embrassements et l'assurance de mon estime et de mon amitié. Soyez heureux. Votre dévoué, Napoléon.
L'histoire de Napoléon à Sainte-Hélène, c'est aussi une longue série d'abandons. Lascaz, bon, qui est épris par une, enfin, accusé de correspondance clandestine, mais qui finit par partir finalement de son plein gré, si je puis dire, puisque Tsunlo lui avait proposé de rester, il refuse, il veut absolument partir, ce qui déçoit Napoléon. Ensuite sera la mort de Cipriani, aussi son maître d'hôtel, un Corse qu'il avait à son service depuis l'île d'Elbe, qui est un peu son maître espion, hein, qui intrigue pour lui à Sainte-Hélène, qui meurt de maladie en mars 1818. Après, c'est le départ de Gourgaud, juste après, insupportable, jaloux, Napoléon obligé de le renvoyer. Donc déjà, sa suite, petit à petit, s'amenuise. Il y a d'autres départs, hein, de domestiques, etc. Donc Napoléon, de plus en plus, sort. Napoléon est un affectif, quelqu'un qui aime le contact et qui redoute d'être seul, en fait. Et il y a une présence, quelqu'un qui compte, Albine de Montholon, bon, même sa maîtresse, bon... A-t-il eu un amour sincère pour elle? On n'en sait rien, mais enfin, toujours est-il que, bon, du réconfort, très certainement. Et en fait, Albine de Montholon part en 1819 parce qu'elle a accouché d'une petite fille, elle a des enfants en bas âge, elle craint